On est heureux de pouvoir nous retrouver, d'avoir été au bénéfice de ces cantiques qui, je le crois, préparent notre cœur à l'annonce de la parole de la vérité. Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre. Nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 12 et à partir du verset 9. Nous pouvons lire. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Amen. » C'est un texte que nous connaissons, qui s'inscrit, nous l'avons vu, il y a eu un miracle, avant il y a eu une discussion par rapport à l'importance du sabbat. Jésus lui-même va dire, on ne l'a pas lu, c'était le verset 8, on aurait pu le lire, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Jésus est en train de montrer qui il était quelque part, de replacer l'importance de s'éloigner de la religion pour se centrer sur Dieu lui-même et sur son Fils, sur lui-même, parce qu'il était venu et il est venu à ce moment-là pour annoncer un message. Avant, je ne sais pas, ce passage s'inscrit vraiment dans quelque chose où Jésus se révèle. Avant, on ne l'a pas lu, on aurait pu le lire, c'est là où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je veux vous donner du repos, venez ». Et on voit que les hommes n'ont pas du tout compris cette pensée, cette parole. Parce que, en tous les cas, s'ils viennent à la rencontre de Jésus-Christ, ce n'est pas du tout pour obtenir du repos, ce n'est pas pour obtenir quelque chose pour leur âme, mais c'est pour critiquer. Ça peut arriver. Vous savez, aujourd'hui, on rencontre des personnes qui, dès qu'on leur parle de Jésus, dès qu'on leur parle de l'œuvre de la croix, comme ces chants que nous avons entendus, ça ne les intéresse pas. La seule pensée qu'ils ont, c'est critiquer, c'est dire ceci ou cela. Le monde n'a pas beaucoup changé depuis l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Toujours est-il que Jésus va faire une guérison, donc le jour du sabbat, dans cet homme, pour cet homme qui avait la main sèche. Et après, et c'est ce qui s'est passé après qui va nous intéresser cet après-midi. C'est étonnant parce qu'il va continuer de faire des miracles. Il va dire de ne pas faire connaître ce qu'il a fait et il va citer ce passage d'Ésaïe que nous pourrons le lire, que nous pourrons tout à l'heure lire ensemble. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est cette phrase qui m'a vraiment surpris. Alors qu'on connaît tous ce que le Seigneur a fait, ou peut-être si on ne le connaît pas tous, on a entendu parler, ou on est là cet après-midi pour apprendre qui il était. La Bible nous dit que si on devait écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, la terre ne pourrait pas contenir les livres. On sait que Jésus a été à différents lieux géographiques. On sait qu'il a voulu et il a aimé, il a pris plaisir à bénir les uns, à guérir, à faire du bien autour de lui. Pourtant, dans cette prophétie que Jésus va s'approprier à ce moment précis de l'histoire, nous pouvons lire « Il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues ». Et je ne sais pas comment, lorsqu'on lit cette phrase, comment est-ce qu'on peut percevoir cela ? Parce qu'on se dit, mais il y a quand même un décalage. Parce qu'on voit qu'on l'entend. On voit que Jésus, comme je viens de le dire, a fait du bien. Et j'ai relevé, vous savez, aujourd'hui, avec une concordance, c'est quelque chose de facile. J'ai relevé tous les textes où Jésus va faire du bien. Et à chaque fois, c'est ce même schéma qui se reproduit, ce que nous avons lu juste avant. Jésus leur dit, il leur recommanda d'en parler à personne. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Il recommanda aux disciples de ne pas dire qu'il était le Christ. Et en réfléchissant, je me suis dit, c'est là le caractère de notre Sauveur. Et c'est ce qu'il aimerait peut-être que nous puissions apprendre cet après-midi, parce que si nous sommes là, c'est pour le découvrir. C'est pour apprendre davantage sur son œuvre, ce qu'il a fait, bien sûr pour les autres, mais au travers des autres, c'est de nous dont il est question. Au travers des miracles, au travers du salut, au travers de la croix, il y a toujours cette même et unique question, c'est « et moi dans cette histoire ?»« Et moi par rapport à Christ, par rapport à la croix ?»« Et moi par rapport à l'éternité ?»« Où est-ce que je me situe ?» Le Messie ne se reconnaît pas. Et je suis convaincu que Jésus-Christ a toujours tenu ce langage. Il ne criera point. Il n'est pas venu en conquérant. Il n'est pas venu en disant « c'est moi, poussez-vous, je vais m'occuper de la situation ». Les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils partaient de Jérusalem déçus, vont exprimer cette pensée. On pensait que ce serait lui qui délivrerait Israël. On pensait que ça allait être un leader politique extraordinaire. On pensait qu'il viendrait avec une armée pour bouleverser tout ce qu'on a appris, pour bouleverser à l'époque, les Romains étaient là. Et peut-être que pour tous, ils attendaient celui qui devait venir de la part de Dieu pour délivrer ses enfants, le peuple d'Israël, d'une manière violente, d'une manière politique, avec l'armée, ceci ou cela. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus est venu dans ce monde. Ce n'est pas le Jésus-Christ que nous voudrions vous présenter cet après-midi. Ce n'est pas quelqu'un qui veut crier, qui veut user de force pour se faire entendre. C'est quelqu'un qui a cette délicatesse lorsqu'il va opérer un miracle, lorsqu'il va guérir une personne, lorsqu'il prendra le temps de s'adresser à certaines personnes en leur disant « Mais ma fille, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix ». Ce n'est pas quelqu'un qui veut que ça soit crié sur tous les toits, parce que le Messie n'est pas venu pour accomplir, pour qu'on puisse le reconnaître par rapport au miracle. Si Jésus-Christ est venu dans ce monde avec la discrétion, avec simplicité, avec humilité, c'était pour la croix. Et c'est la seule chose cet après-midi qui a d'important. Il n'est pas venu en criant, il n'est pas venu pour faire entendre sa voix dans les rues par rapport à ce qu'il est capable de faire, par rapport à sa puissance, mais il est venu en ayant toujours cet unique but, cette unique vision, c'est d'aller jusqu'à la croix, c'est de pouvoir accomplir ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. C'est cela notre Sauveur, et c'est cela que nous voulons vous présenter cet après-midi. Il pourra dire, quelques versets avant, « Je suis doux et humble de cœur. Je veux vous respecter. Je ne veux pas bousculer, vous violenter par rapport à ce que vous pensez savoir, croire, par rapport à votre idée de la religion, par rapport à votre connaissance théologique. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir ce que Jésus-Christ a fait pour vous, pour moi, d'une manière personnelle. Parce que, quand même, cet après-midi, je pense qu'on est tous d'accord, si Jésus n'est pas venu en criant, si Jésus n'est pas venu pour faire entendre sa voix d'une manière flagrante en disant « mais c'est moi, laissez-moi le passage », il est quand même venu pour un but précis, Et je le répéterai tout au long de ce message, ce qui est important, c'est l'œuvre de la croix. Et cette œuvre, Jésus-Christ, au travers de cette prophétie, va nous montrer une application pratique, concrète. Il y a ce psaume, je vais le lire pour vous, peut-être sûrement vous le connaissez, c'est le psaume 72, et le verset 13 nous dit « Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. » Et leur sang, aujourd'hui, on pourrait l'exprimer différemment, « et leur vie aura du prix à ses yeux. » Jésus n'est pas venu pour crier, il n'est pas venu pour bousculer, pour s'imposer à nous, on pourrait le dire comme ça, mais il est venu parce que notre vie a du prix à ses yeux. Et lorsqu'il exprime cela au travers de cette prophétie, en disant « mais ne dites à personne ce que je viens de faire, parce que l'important ce n'est pas ça. Il ne faut pas que vos yeux, vos pensées soient fixées sur les miracles, mais sur l'œuvre de la croix. » Il va prendre deux exemples pratiques, deux exemples pour nous montrer la valeur que nous avons, la délicatesse qu'il a voulu, dont il a voulu faire part à notre égard par rapport à notre vie. Il va dire « mais il ne va pas briser le roseau cassé ». Il ne va pas briser le roseau cassé. D'autres versions pourront dire le roseau abîmé. Le psaume 38, je le lis pour vous, nous dit « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Il ne brisera point le roseau cassé. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas tous d'accord, mais les personnes qui vont mal, les personnes qui sont brisées intérieurement, les personnes qui ont des difficultés, qui ne peuvent relever la tête, les personnes qui peuvent dire « mais moi aussi, mon cœur m'arrache des gémissements tous les jours ». Je marche dans la tristesse tous les jours. Le monde ne peut rien faire pour vous. Il y a quelques jours, on nous avait offert des places pour aller voir le cirque pour ma fille. Et alors que je regardais ça, vous savez, j'ai été saisi tout le long parce qu'on y voit là, je ne sais pas, c'était la première fois que j'y allais, mais on voyait des animaux faire des choses extraordinaires. Et je regardais cela. Et je pensais à ce message, et je me disais, je l'ai dit à mon épouse, je suis frappé parce que l'homme est capable de dompter des animaux, mais indomptables. Lorsqu'on voit que les éléphants sont capables de faire ceci ou cela, les lions, les hommes sont arrivés à faire des choses extraordinaires. Les hommes sont capables d'inventer des inventions extraordinaires. Les hommes sont capables de faire des opérations à distance, et on pourrait multiplier les exemples. Mais le cœur de l'homme, son propre cœur, il n'est jamais arrivé à le dompter. Son propre cœur qui peut être brisé, cassé, une vie cassée, brisée, qui peut la réparer? Qui peut arriver à redresser cela? Est-ce que quelqu'un cet après-midi peut dire « mais moi j'ai trouvé la solution » Vous pouvez vous dire et être témoin de choses extraordinaires que l'homme a été capable de faire ici-bas. Mais personne ne peut dire « je n'ai jamais rencontré, si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne m'a pas cassé plus, mais qui m'a relevé, qui ne m'a pas brisé davantage, mais qui m'a restauré dans mon identité, dans ma vie. » Jésus-Christ n'est pas venu, et la Bible le dira d'une manière différente, n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous pointer, pour montrer seulement que nous sommes misérables, que sans lui, nous pouvons rester toute une vie cassée, toute une vie sur un mauvais chemin, un sentier usé. Lorsque nous prenons le mot, le sens littéral de roseau cassé, on pourrait le traduire comme ça, un sentier usé. Et Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde, n'est pas venu pour nous dire « mais tu vois, tu es sur un chemin usé, il n'y a plus de perspective d'avenir pour toi, il n'y a plus de solution pour ta vie ». Jésus-Christ est venu et s'est approprié cette prophétie pour que tout le monde puisse comprendre que s'il est venu, ce n'est pas pour briser, ce n'est pas pour casser, ce n'est pas pour détruire, parce que détruire, c'est l'œuvre du diable, mais l'œuvre de Christ, c'est de restaurer, de bénir et d'apporter le pardon. On peut, vous savez, on aurait pu multiplier les exemples. Sur ce qui peut être cassé, il y a ce texte dans la parole de Dieu. La muraille est en miettes, comme la cruche d'un potier qui a reçu un coup. C'est irrémédiable. On ne peut même plus trouver parmi les débris de quoi prendre un peu de braise dans le foyer ou recueillir un peu d'eau dans une flaque. Peut-être cet après-midi, c'est le cas pour une personne. La muraille, votre vie est en miettes. Votre vie est cassée. Vous savez, on peut faire des constats des fois. On peut s'asseoir et réfléchir en disant « mais qu'est-ce que ma vie ?» Et peut-être pour quelqu'un, c'est cela. Il n'y a plus rien à prendre de ma vie. Il n'y a plus rien à en tirer. Peut-être c'est d'autres personnes qui disent ça de vous. Peut-être que pour les autres, lorsque les autres vous regardent, ils disent « mais il n'y a plus rien à en tirer de toi. Il n'y a plus rien, ta vie, elle est en miettes. Elle est toute cassée. On ne peut même pas s'en servir pour prendre un brasier, pour prendre de l'eau dans une flaque, pour les choses tellement insignifiantes. Mais je vais répéter ce que j'ai dit plus tôt, notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Elle a un prix qu'on ne pourra peut-être jamais comprendre ici-bas. Parce que le prix de notre vie, c'est le prix de Jésus-Christ sur le bois de la croix qui s'est donné pour que nous puissions expérimenter que quand bien même nous sommes cassés, quand bien même nous sommes en mille morceaux, quand bien même nous sommes en miettes, Jésus-Christ est capable de restaurer notre vie. Si nous le voulons, bien entendu, si nous acceptons son message. La deuxième chose qu'il va dire, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un lumignon. On devine, peut-être vous vous êtes jamais posé la question. C'est le bout d'une mèche d'une bougie allumée. D'autres versions pourront dire de ce passage, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Je pourrais me répéter, et on pourrait, peut-être que ces deux versets, ces deux paroles, disent la même chose d'une manière différente. Il y a beaucoup de choses ici-bas qui peuvent nous faire faiblir dans notre espérance par rapport à la paix, par rapport à notre avenir. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus cette flamme, cette espérance en disant « mais mon avenir est assuré ». Peut-être que cet après-midi, dans ce lieu, il y a des personnes qui ont déjà expérimenté, qui étaient semblables à une bougie qui éclairait bien, autant que faire se peut par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à votre perspective, par rapport à vos projets professionnels, sentimentaux et autres. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on prévoit. Les choses se passent d'une manière différente et au lieu que la flamme grandisse, au lieu que la lumière puisse briller davantage, au lieu que, et je vais le dire peut-être dans un langage biblique, si ça vous rappelle un texte que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde », parce que c'est à cela que Jésus nous appelle, c'est à briller. Nous pouvons vivre le contraire, nous pouvons vivre une vie qui s'éteint, qui s'affaiblit. On peut penser, vous savez, je pensais lorsque je méditais sur ce texte, aux personnes par exemple qui pensent à la mort. Job pourra dire « Mon âme est dégoûtée de la vie, sa lumière s'affaiblissait ». Sa lumière était sur le point de s'éteindre parce qu'il y avait tellement de souffrances dans sa vie que rien ne pouvait aller mieux. Un autre pourra dire « Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie ». Et on pourrait multiplier les exemples dans la parole, on pourrait multiplier les exemples dans ce monde où les personnes n'ont plus d'espérance, ne peuvent plus penser à quelque chose de bien qui pourrait se produire. Le monde veut éteindre notre vie. Le monde nous fait croire qu'à l'extérieur, en dehors de Jésus-Christ, on peut avoir cette flamme, on peut vivre et connaître la joie, le bonheur. Le monde nous fait croire qu'on peut rester dans notre péché sans que c'est aucun prix, sans que ça ne nous coûte rien. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas concilier les deux. Et Jésus-Christ, encore cet après-midi, nous rappelle, nous montre, nous dit qu'il fait tout pour que nous puissions connaître, comprendre son amour, saisir qu'il a tout fait pour que nous puissions voir notre vie restaurée. Rien ne peut éteindre l'amour de notre Sauveur à notre égard. Il y a ce texte que peut-être vous connaissez, qui se trouve dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Je vais vous le lire dans une autre version. Toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour. Et toute l'eau des fleuves serait incapable de le noyer. Imaginons quelqu'un qui offrirait tous ses biens pour acheter l'amour. Il ne manquerait pas de recueillir le mépris. Toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour. Et laissez-moi vous dire cet après-midi que rien ne peut éteindre l'amour de notre Sauveur à notre égard. C'est pas possible. C'est impossible. Personne dans ce lieu ne peut dire « mais j'ai trop péché, j'ai pris trop de mauvais chemins pour être béni de Jésus-Christ ». Ce n'est pas possible parce que rien ne peut éteindre son amour. Et bien sûr, on va voir quand même que nous avons un pas, une décision, quelque chose à faire. Mais rien ne peut éteindre son amour. Rien ne peut éteindre l'œuvre de la croix. Rien ne peut atténuer, affaiblir ce que Jésus-Christ a fait, a accompli sur le bois de la croix. Peut-être que vous entendez une voix vous dire « mais n'écoute pas, ne lis pas la parole, ne prête pas attention à la croix, c'est rien ». Peut-être vous vous l'êtes même déjà dit vous-même d'une manière personnelle, intime en disant « mais c'est pour les autres ». Peut-être que vous l'avez vécu pendant de nombreuses années et aujourd'hui, si vous êtes là cet après-midi, c'est pour que vous puissiez entendre comme tout à nouveau, rien ne peut éteindre l'œuvre de la croix. Le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, encore aujourd'hui, est pleinement suffisant pour accorder le pardon à une personne, pour laver, pour qu'une personne cet après-midi puisse revoir cette certitude que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et je terminerai avec la fin quand même, parce que c'est ce que nous devons comprendre de cette citation. Il ne brisera pas point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. La version d'Ésaïe 42, on pourrait le lire au verset 3. Nous lisons « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Et c'est cela le point important cet après-midi. Parce qu'on pourrait parler pendant une heure, même plus, tout le temps de la réunion de l'amour de Dieu. Et c'est vrai parce qu'il nous aime. On pourrait vous dire, et c'est ce que j'ai fait, mais si je m'arrêtais là, ça serait quand même incomplet cet après-midi. Si je m'arrêtais à vous dire que tous les océans, toute l'eau, que rien ne peut éteindre l'amour de Dieu, que rien ne peut affaiblir l'œuvre de la croix, ça serait incomplet parce que la suite nous dit, et c'est cela qui est important, c'est selon la vérité. La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ la vérité, le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas parler d'amour sans parler de l'œuvre de la croix, de la repentance. Parce que si Jésus nous a aimés, si Dieu nous a aimés au point qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui mettront leur foi dans le beau nom du Seigneur Jésus soient sauvés, il y a aussi cette réalité, c'est que nous devons quand même comprendre que sans Dieu nous sommes perdus et que sans Dieu nous sommes encore couverts du péché rempli de ténèbres. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas dans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. C'est cela la justice, c'est cela la vérité. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, si nous ne marchons pas selon la lumière, si nous ne marchons pas avec Jésus-Christ, nous marchons selon le diable. Nous marchons dans les ténèbres. C'est cela la justice et la vérité. On ne peut pas être au milieu. On ne peut pas dire « je ne veux pas me prononcer pour l'instant ». On ne peut pas dire « oh, je choisirai plus tard » parce que ne pas choisir, c'est déjà se positionner par rapport à Dieu. Ne pas prendre la peine de s'asseoir et de réfléchir sur notre éternité, sur qu'est-ce que va devenir mon âme si demain je partais, si Jésus revenait, où est-ce que je serais ? C'est déjà se positionner, c'est déjà prendre parti. La justice et la vérité de Dieu sont parfaites. Et cet après-midi, cette justice et cette vérité nous rappellent que la seule chose que nous devons faire pour venir goûter à cet amour, vous tous qui êtes peut-être cassés, qui avez été brisés par la vie, la seule chose que votre Sauveur attend cet après-midi, c'est de ne pas venir en demandant « mais pourquoi il s'est passé ceci ou cela ?» C'est de ne pas lui demander des comptes, pas lui demander des explications sur telle et telle souffrance, pas pour vous mettre à son égal, mais pour vous humilier, plier le genou devant lui en disant « Seigneur, je reconnais que sans toi je suis perdu. Je reconnais que la vérité c'est toi. Je reconnais que ta justice est parfaite et que pour être justifié, il faut que je change mon manteau, il faut que je change ma veste et il faut que je puisse me revêtir, comme nous dit la parole de Jésus-Christ. » C'est cela que Jésus a accompli sur l'œuvre de la croix. C'est pour que nous puissions, cet après-midi, tout à l'heure, lorsque nous allons annoncer, vous proposer de venir, ou chez vous, pour que vous puissiez vivre ce qu'est être réconcilié avec Dieu. Ne plus être en opposition avec Dieu. Ne plus marcher à contresens avec Dieu. Ne plus être là et de marcher dans la tristesse, dans les gémissements. Ne plus être semblable à cette muraille brisée en miettes. Pour Jésus-Christ, pour Dieu, on a du prix. On a de la valeur. Il nous a tout donné. On pourrait dire, il y a l'expression dans ce monde qui le dit bien, la balle est dans notre camp, dans le sens où ce n'est pas nous qui pouvons nous justifier, mais c'est nous qui pouvons ouvrir notre cœur et recevoir Jésus-Christ. On peut prier le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles combien tu nous aimes. Tu nous rappelles ton amour. Tu ne te lasses pas de pardonner. Nous avons du prix à tes yeux et nous ne pouvons pas comprendre cet amour. Seigneur, je te prie ici, dans ce lieu, il y a quelqu'un qui est brisé, cassé, qui marche dans les gémissements. que cette personne puisse saisir par la foi ton amour, ta justice et ta vérité, t'accepter, voir sa vie transformée, parce que c'est cela que tu fais, tu transformes nos vies. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est là affaibli, qui est sur le point de s'éteindre dans son espoir, dans ce qu'il peut y avoir dans sa vie, qui peut-être en est venu à cette conclusion que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que la mort est préférable à la vie. Seigneur, mets de l'espérance dans ce cœur. Montre combien tu nous aimes. Tu nous l'as prouvé à la croix. Seigneur, merci. Oh Seigneur, nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, parle au cœur, par ton esprit, et que plusieurs cet après-midi puissent vivre ce que ta parole nous dit, que tu reconstruis, que tu bâtis sur d'anciennes ruines, que tu guéris, que tu libères, que tu bénis, que tu conduis, que tu as des projets de paix pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as prévu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.